Chateaubriand, itinéraire de Paris à Jérusalem, en Terre Sainte. Lorsqu'en 1806 j'entrepris le voyage d'outre-mer, Jérusalem était presque oubliée. Un siècle anti-religieux avait perdu mémoire du berceau de la religion. Comme il n'y avait plus de chevaliers, il semblait qu'il n'y eût plus de Palestine. Le temps était si beau et l'air si doux que tous les passagers restaient la nuit sur le pont. J'avais disputé un petit coin du gaillard d'avant à deux gros caloyers qui ne me l'avaient cédé qu'en grommelant. C'était là que je dormais le 30 septembre à 6 heures du matin, lorsque je fus éveillé par un bruit confus de voix. J'ouvris les yeux et j'aperçus les pèlerins qui regardaient la proue du vaisseau. Je demandai ce que c'était. On me cria « Signor il Carmelo, le Carmel !» Chacun s'empressait de me le montrer de la main, mais je n'apercevais rien à cause du soleil qui commençait à se lever en face de nous. Ce monument avait quelque chose de religieux et d'auguste. Tous les pèlerins, le chapelet à la main, étaient restés en silence dans la même attitude, attendant l'apparition de la Terre Sainte. Le chef des papas priait à haute voix. On entendait que cette prière est le bruit de la course du vaisseau, que le vent le plus favorable poussait sur une mer brillante. De temps à temps, un cri s'élevait de la proue quand on revoyait le Carmel. J'aperçus enfin moi-même cette montagne comme une tache ronde au-dessous des rayons du soleil. Je me mis alors à genoux à la manière des Latins. Je ne sentis point cette espèce de trouble que j'éprouvais en découvrant les côtes de la Grèce, mais la vue du berceau des Israélites et de la patrie des chrétiens me remplit de crainte et de respect. J'allais descendre sur la terre des prodiges, aux sources de la plus étonnante poésie, au lieu où, même humainement parlant, s'est passé le plus grand événement qui ait jamais changé la face du monde, je veux dire la venue du Messie. Je les abordais à ces rives que visitèrent comme moi Godefroy de Bouillon, Raymond de Saint-Gilles, Tancrède le Brave, Hugues le Grand, Richard Cœur de Lion, et ce Saint-Louis dont les vertus furent admirées des infidèles. Obscur pèlerin, comment oserais-je fouler un sol consacré par tant de pèlerins illustres? Je restais les yeux fixés sur Jérusalem, mesurant la hauteur de ses murs, recevant à la fois tous les souvenirs de l'histoire, depuis Abraham jusqu'à Godefroy de Bouillon, pensant au monde entier changé par la mission du Fils de l'homme, et cherchant vainement ce temple dont il ne reste pas pierre sur pierre. Quand je vivrai 1000 ans, jamais je n'oublierai ce désert qui semble respirer encore la grandeur de Jéhovah et les épouvantements de la mort. Lorsque Omar s'empara de Jérusalem, il paraît que l'espace du temple, à l'exception d'une très petite partie, avait été abandonné par les chrétiens. Saïd ben Badrik, historien arabe, raconte que le calife s'adressa au patriarche Sophronius et lui demanda quel serait le lieu le plus propre de Jérusalem pour y bâtir une mosquée. Sophronius le conduisit sur les ruines du temple de Salomon. Omar, satisfait d'établir sa mosquée dans une enceinte si fameuse, fit déblayer les terres et découvrir une grande roche où Dieu avait dû parler à Jacob. La mosquée nouvelle prit le nom de cette roche, Gamiat el-Sakra, et devint pour les musulmans presque aussi sacrée que les mosquées de la Mecque et de Médine. Le calife Abdelmalek en augmenta les bâtiments et renferma la roche dans l'enceinte des murailles. Son successeur, le calife El-Wild, embellit encore El-Sakra et la couvrit d'une dôme de cuivre doré, dépouille d'une église de Baalbek. Dans la suite, les croisés convertirent le temple de Mahomet en un sanctuaire de Jésus-Christ, Et lorsque Saladin reprit Jérusalem, il rendit ce temple à sa destination primitive.